CQFD.
Des perles de verre pour raconter l'histoire de l'humanité, et en particulier celle de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Ces perles, qui étaient notamment fabriquées au Moyen-Âge, permettent aux scientifiques d'aujourd'hui de comprendre les liens qui existaient avec l'Afrique il y a plusieurs siècles, Bastien Confino.
Ouais, selon une étude publiée dans PLOS ONE il y a quelques semaines, des chercheurs suisses ont pu démontrer que l'Afrique subsaharienne du Moyen-Âge était intégrée à un grand réseau commercial impliquant l'Asie et l'Europe. Et contrairement à ce qu'on croit parfois, elle n'était pas du tout isolé du reste du monde. Et ça, on l'a effectivement démontré grâce à des perles de verre.
Nous accueillons Anne Mayer tout d'abord. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître d'enseignement et de recherche au laboratoire archéologie et peuplement de l'Afrique de l'Université de Genève. Vous êtes en duplex d'ailleurs de nos studios de Genève. À vos côtés, Myriam Truffat-Jacquet, bonjour à vous.
Bonjour.
Archéomètre et scientifique de la conservation à la Haute École Arc Conservation Restauration de Neuchâtel. Vous êtes donc les deux autrices de cette étude. Anne Mayer, pourriez-vous tout d'abord nous décrire ce que sont ces fameuses perles de verre?
Eh bien, nous parlons ici de perles de verre, en fait, de diverses couleurs. Il y en a des bleus, des jaunes, des verts, des blanches. Elles sont aussi de différentes formes, de différentes tailles. Et surtout, elles ont été fabriquées de différentes façons, donc avec différentes techniques et selon différentes recettes, avec différents types de matériaux. Et ça, Myriam en parlera peut-être plus précisément un peu plus tard.
Ouais, on va revenir là-dessus, mais où est-ce que vous les avez découvertes?
Alors, depuis 25 ans à peu près, l'équipe du laboratoire archéologie et peuplement de l'Afrique de l'Université de Genève fouille des sites archéologiques au centre du Mali, en pays d'Ogon plus précisément, et puis depuis 2012 à l'est du Sénégal, dans la vallée de la Falémé. Ce changement de terrain, en fait, a eu lieu suite à l'arrivée des djihadistes au Mali.
Hein,
donc,
oui.
Voilà. Le point commun de ces sites, c'est qu'ils se situent en périphérie des grands centres de pouvoir et de commerce liés au premier royaume qui émerge à cette époque médiévale. Donc, on est dans des zones rurales et on fouille donc des sites d'habitat ou des sites funéraires, différents types d'établissements, en fait.
Elles servaient à quoi, ces perles de verre?
Alors, à l'époque médiévale, il s'agit de biens de prestige, quand même, dans la mesure où elles viennent de loin, elles ont circulé sur des très longues distances, et elles sont utilisées comme parures. Donc ça, on le sait, notamment suite à des fouilles de tombes, où elles sont encore en connexion, hein, si on veut, on voit leurs liens d'enfilage. Évidemment, dans les sites d'habitat, c'est plutôt des perles perdues hein, qui vont se retrouver isolées dans des dépotoirs ou autres quand le collier s'est cassé. Donc, c'est plus difficile de dire exactement comment elles étaient utilisées. Mais en bref, ce sont des parures.
Et comment est-ce qu'on sait qu'elles dataient du 7e, 10e ou 13e siècle?
Alors, pour la période médiévale, on utilise surtout la méthode du carbone 14, c'est-à-dire qu'on va dater du matériel organique, surtout des charbons de bois, qui vont se retrouver dans les mêmes couches où sont découvertes les perles.
Donc, on date pas directement la perle, mais la zone où on l'a retrouvée.
Exactement.
Alors, quand vous avez retrouvé ces perles, Anne Mayer, vous avez voulu savoir quelles étaient leurs origines. Et pour ça, vous vous êtes tournée vers vous, Myriam Truffat-Jacquet. Je rappelle que vous êtes archéomètre. Juste avant d'entrer dans le détail, c'est quoi archéomètre?
Oui, donc un archéomètre est une scientifique qui étudie les matériaux archéologiques avec des techniques d'analyse physique et chimique, en fait pour en comprendre les caractéristiques intrinsèques, comme par exemple la composition chimique, la structure, l'état de dégradation, et on peut aussi faire de la datation et l'étude des provenances. Et donc, l'archéométrie comprend plusieurs branches d'études selon les matériaux qu'on analyse. Et moi, je suis plutôt spécialiste des analyses chimiques de matériaux inorganiques et organiques.
Alors, du coup, il y a Anne Mayer qui débarque un jour vers vous avec ses perles, hein, ses perles de verre. C'est vous qui êtes allé la voir.
Oui.
Mais comment? Parce que vous aviez perçu qu'elle avait trouvé des perles rares, c'est ça?
Oui.
Très bien. Et du coup, vous êtes intervenue de quelle manière, Myriam?
En fait, pour déterminer l'origine de matériaux tels que les verres, en fait, on se base principalement sur la composition chimique des verres qui permet de comprendre quels ingrédients ont été utilisés pour le fabriquer. Et donc, en fait, on peut, à travers l'analyse chimique, proposer des hypothèses sur la zone de provenance de ces ingrédients de base.
Alors justement, comment est-ce qu'elles étaient fabriquées, ces perles ?
Oui, alors donc avant de comprendre comment les perles étaient créées, il faut comprendre comment les verres est fabriqué. Parce qu'en fait, la création des perles en verre s'est fait en différentes étapes. Et la première, c'est la fabrication du verre brut qui sera après retravaillé pour mettre en forme les objets. Donc le verre brut est fabriqué principalement à partir de trois ingrédients principaux. Il faut tout d'abord un ingrédient qui permet la formation de la structure de base. Et historiquement, il s'agit de la silice qu'on trouve dans le sable ou dans les minéraux quartzeux. Mais cet ingrédient a en fait une température de fusion très élevée qui était difficilement atteinte par les fours en fait, qui étaient utilisés pour la création du verre. Et donc, il faut un deuxième ingrédient qui est un fondant qui permet de réduire, de baisser la température de fusion de la silice. Et historiquement, on a utilisé les cendres des plantes, le cendre du bois ou des minéraux à base de soude. Et enfin, le troisième ingrédient sert à stabiliser la structure du verre. Et ces ingrédients sont introduits généralement à travers les impuretés de sable ou à travers des roches calcaires.
On rajoute encore à ce mélange. Et
oui,
puis on chauffe
ça.
Et ça donne du verre.
Exactement. Et puis on peut encore ajouter des ingrédients, des additifs pour changer la couleur, pour changer les caractéristiques optiques, pour obtenir des résultats spécifiques. Okay. Et donc, une fois que le verre brut est créé, il est transporté vers le centre de production des objets où les perles sont créées, sont fabriquées à travers différentes techniques comme l'étirement, le roulement, le moulage ou le soufflage.
Donc, et tout ça à chaud comme on fabrique du verre encore ou des objets en verre aujourd'hui.
Oui, exactement.
Vous avez utilisé une technique pour faire votre étude qui s'appelle la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif couplé à l'ablation laser. Ouais, voilà, on est assez loin là de l'archéologie avec le pinceau, la truelle. C'est quoi cette technique ?
Oui, cette technique qu'on peut abréger en anglais est l'ACPMS, comme ça,
oui,
c'est plus simple.
Ça nous aide beaucoup, et là, c'est vraiment...
Voilà. C'est une technique d'analyse élémentaire, donc c'est une technique qui permet d'identifier les éléments chimiques majeurs, mineurs et traces qui composent les matériaux. Et donc cette technique est particulièrement précise et sensible et permet de détecter des éléments qui sont en très très faible concentration dans les matériaux. Mmh. Et ce qui est très important pour le verre en fait, parce que ces éléments en trace sont ceux qui donnent le plus d'informations sur l'origine géochimique en fait des matériaux et donc qui permet de comprendre, de proposer des hypothèses sur la provenance des matériaux qui sont utilisés pour fabriquer le verre.
Alors justement, vous avez découvert des éléments à propos des provenances, des matériaux pour fabriquer ces perles de verre ?
Oui, en fait, on cherche de comprendre la provenance des ingrédients, donc du sable, si la cendre des plantes ou si des sources minérales ont été utilisées comme fondant. Et puis, tous les ingrédients en fait qui ont été utilisés à travers l'analyse chimique, on peut comprendre, poser des hypothèses en fait sur la provenance parce que en fait c'est très compliqué de poser une zone spécifique de production du verre.
Et donc ça venait pas tout de sur place quoi, c'était pas du local ces matériaux.
C'est ça. En fait la majorité des verres étaient produits dans des différentes zones et puis comme j'ai dit avant le verre faisait des longs voyages pour vers les ateliers secondaires de production et puis vers les site de consommation en fait des objets.
Et voilà. Je reviens à vous, Anne Maillor, grâce à ces informations, vous avez pu reconstruire un peu l'histoire, ou en tout cas une partie de l'histoire du commerce en Afrique. Qu'est-ce que vous avez pu conclure ?
Oui, donc Myriam a pu effectivement proposer des hypothèses de provenance de ces verres en Égypte, au Levant et dans différentes zones d'Asie de l'Ouest, dans la zone mésopotamienne, par exemple. Et donc, tous ces objets, toutes ces perles, en fait, sont arrivées à travers le commerce transsaharien. Alors, ce commerce transsaharien médiéval est bien connu depuis longtemps par des sources notamment écrites, arabes, qui ont été produites entre le 9e et le 15e siècle. Donc, on sait que ça existe. Mais quand même, là, le fait d'avoir pu combiner des fouilles archéologiques de sites bien datés, localisés en périphérie des capitales, des centres de pouvoir des premiers royaumes, avec des analyses de laboratoire, ça nous a vraiment mené à pouvoir mieux comprendre l'articulation entre ce grand commerce transsaharien international, d'une part, et puis des réseaux de commerce plus régionaux et locaux qui, en fait, assurent la circulation de ces biens de provenance lointaine jusque dans les zones rurales. Mmh. Et c'est ça qui est un peu nouveau. Et ça permet aussi, disons, de contrer ces préjugés un peu tenaces qui pensent que l'Afrique subsaharienne était un peu en dehors du monde, sans histoire. Et donc là, on voit très bien que depuis très longtemps, l'Afrique est en contact avec le bassin méditerranéen et l'Asie à travers des réseaux de commerce bien développés.
Des perles de verre pour raconter l'Afrique subsaharienne au Moyen-Âge et ses liens donc avec le reste du monde. Merci à toutes les deux d'être venues nous donner les explications sur vos recherches. Anne Mayor, maître d'enseignement et de recherche au laboratoire archéologie et peuplement de l'Afrique de l'Université de Genève. Et puis Myriam Truffat-Jacquet, archéomètre et scientifique de la conservation à la Haute École Arc Conservation Restauration de Neuchâtel. On souhaite une belle journée à toutes les deux.
Merci beaucoup.
De 10h à 11h, CQFD.